Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 142e épisode de Torréfaction. Après une petite absence, on est de retour avec notre sélection de l'actu, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Ça va Caféine ?
Oui, vachement bien, oulala ! T'as vu ? T'as le professionnalisme à reprendre dessus tu instantanément. Ah non, parce que on parlait off, hein, juste avant d'enregistrer, on était un peu nu.
Mais voilà. Oui, c'est une période un peu difficile pour tout le monde.
Mais voilà, mais maintenant qu'on vous a dans les écouteurs, enfin, que nous sommes dans vos écouteurs et enceintes, on peut pas se permettre de pas être méga péchu. Enfin, genre, ça se fait pas, par respect.
Donc, évidemment. On est des professionnels, merde.
On est des méga pros, évidemment, tout va bien. Voilà.
Allez, on attaque tout de suite avec le gaming et tu voulais nous parler du phénomène du moment Fall Guys.
Bah, on est un peu à la bourre puisque évidemment c'est sorti pendant que nous on était en mini break avec nos vacances au bord de la plage, les pieds dans l'eau, évidemment comme tout le monde le sait.
I wish.
Pardon, excusez-moi, je viens de craquer. Donc Fall Guys qui est un petit jeu qui cartonne même contre toute attente, j'ai envie de vous dire, parce que même les développeurs, hein, malgré tous les bêta-tests qu'ils avaient fait, ont été un petit peu surpris par l'ampleur du phénomène, ce qui fait que les serveurs ont un peu de mal au départ, hein. Ça a explosé en vol pendant le lancement et on va pas se le cacher. Le titre lui-même, est-ce qu'il vaut toute cette attention? Oui, mais non. Une bonne vieille réponse de Normand. Y a que ça de vrai.
Voilà, nous voilà bien avancés, on passe à la suite.
Allez, et bonne journée surtout.
On va faire la même pour tous les
titres,
en fait.
Bon, franchement, on pourrait, hein, parce que y a des gens qui sont contents, et il y a des gens qui sont pas contents. Voilà, tu vois, en fait, tu peux résumer toute l'actualité comme ça tout le temps, surtout en ce moment.
Moi, j'ai regardé quelques streams sur Twitch, ça a l'air quand même bien stressant, en fait. Hein. Truc avec les panneaux qui basculent, là, où en fait, tu dois jouer sur l'équilibre et essayer d'avoir le même nombre de jours des deux côtés, enfin, c'est juste...
Alors, c'est compliqué, mais alors, replaçons le débat dans son contexte. Alors, c'est un titre qui se mange un 6 sur Gamekult, je vous nique la surprise tout de suite, hein. Donc ça veut dire que c'est pas une mauvaise note sur Gamekult, c'est juste que c'est pas si ouf que ça. C'est un jeu qui est disponible sur PlayStation 4 et PC. Sur PC il est payant à 20 balles, vous allez voir pourquoi c'est un problème. Sur PlayStation 4 il est gratos si vous avez le PlayStation Plus. Je me gourre à chaque fois dans PlayStation Now pour les trucs en streaming, je vais apprendre un jour, hein. Je vous jure que j'ai arrêté de me planter, parce que ça me coûte de l'argent en plus tous les ans quand je renouvelle mon abonnement avec le mauvais service. Donc PlayStation, quand vous êtes sur PlayStation, vous n'avez pas besoin de le payer si vous êtes déjà abonné, et ça c'est pas mal. C'est un jeu qui s'adapte très très bien, c'est un party game à la base, donc ça vraiment c'est parfait sur grand écran et avec un pad au fond de votre canapé. C'est donc un mélange de Battle Royale et de Takeshi Castle. C'est un truc japonais que vous ne connaissez peut-être pas, mais en France on avait une version un peu édulcorée, bizarre, avec des vachettes, qui s'appelait Interville. Moi je suis suffisamment vieux pour avoir connu les versions avec Léon Zitrone et Guy Lux, et je vous emmerde. Donc parce que c'est un truc qui en fait, a duré, j'ai été voir la page Wikipédia et en fait, ça a démarré dans les années 60, mais il y a eu des versions jusqu'en 2013, je crois. Ouais, donc, j'ai halluciné. Donc, c'est un truc connu, on va dire, c'est des épreuves assez bateaux. Dans Fall Guys, on a des petits personnages qui ressemblent à des gros tic-tac avec des bras et des jambes, et on a une mécanique de jeu hyper classique, c'est-à-dire qu'on enchaîne des mini-jeux, comme dans plein de party games, et dans chaque mini-jeu, va y avoir des gens qui vont se faire éliminer, et le but du jeu est d'être le dernier survivant, donc c'est le côté bateau royal du truc, et à chaque fois il y a des jeux qui vont être un peu plus sympas, ça va varier, il y a un pool de jeux et vous allez avoir de manière aléatoire un de ces jeux là à chaque étape. Franchement, l'idée est excellente, la réalisation est pas moche du tout, c'est le design colle plutôt bien à l'esprit du jeu. La problématique, elle est un petit peu variée. C'est-à-dire qu'il y a déjà un problème avec le moteur physique. C'est fait exprès, oui, mais non. C'est-à-dire que globalement, le moteur physique fait un peu n'importe quoi et des fois, on perd ou on se retrouve dans des positions compliquées. On n'avait rien demandé, tu vois. C'était pas prévu comme ça. Alors, on en rigole et tout, mais tu perds quand même ta partie, tu te fais éliminer. Parfois, sur des trucs qui sont complètement pétés, bon, c'est un petit peu pénible et ça peut être crispant. C'est un jeu qui est censé être là pour la rigolade, on est censé jouer avec ses potes, on n'est pas censé se prendre la tête, mais il y a quand même ce petit côté crispant qui est toujours là à cause justement d'une mécanique au niveau de la physique qui est pas extraordinaire, en tout cas pas dans toutes les situations. Parfois ça fait des trucs complètement cons et là on en rigole parce que tellement c'est débile, hein. Il y a des espèces de trucs qui ont des marteaux qui tournent par exemple, qui vont t'éjecter de l'autre côté de la map alors qu'ils sont censés juste pousser parfois, parce que le jeu a décidé que là il allait te catapulter. Bon, pourquoi, tu ne sais pas. Et du coup on se retrouve avec vraiment une ambiance, si on y joue avec ses potes on s'éclate, on se prend pas la tête, etc. Si on est en train de faire une game vite fait pour jouer comme ça, pour s'entraîner, on peut se retrouver assez vite crispé, et surtout on s'aperçoit que ça tourne très très vite en rond parce que finalement il n'y a pas tant de mini-jeux que ça. À chaque étape de la sélection, bah, comme tu commences avec 60 joueurs, t'as un pool de jeux qui sont vraiment designés pour 60 joueurs, t'as un pool de jeux qui sont designés pour, on va dire, entre 20 et 45 joueurs, et puis t'as vraiment quelques jeux qui sont spécifiques au final, quand il y a moins de 12 joueurs, on va dire, entre 9 et 12, généralement les finales c'est entre 7 et 12 en fonction de ce qui s'est passé à la game d'avant. Et du coup, bah, ça tourne quand même relativement rond, c'est un petit peu chiant au bout d'un moment. En tout cas, moi, j'ai du mal à retrouver l'énergie de me relancer dans une partie parfois. Mmh. Et puis, ils ont un petit problème d'interface qui est vraiment pas génial. Elle est pas nulle, on a vu pire, mais elle est pas folle. Tu peux pas quitter une partie, par exemple, si t'es obligé de quitter une partie alors que tu viens de te faire éliminer dans un mini-jeu. T'es obligé d'attendre, par exemple, d'être dans le mini-jeu suivant pour pouvoir quitter le jeu. Tu peux pas quitter pendant le loading, machin et tout. C'est con, mais c'est chiant parce que vraiment, l'essence même de ce genre de jeu, c'est de pouvoir se barrer dès que t'es mort, en fait. Apex, ça va plus vite de quitter une game et de retourner dans une game dans Apex que dans celui-là, tu vois. C'est un petit peu dommage. Et ils ont un gros problème avec tout un pool de jeux qui sont tous les jeux d'équipe. Et alors, tous les jeux d'équipe sont pourris. Alors, il y en a qui sont sur des bonnes idées, ça part d'un bon sentiment, mais en fait, si tu joues avec des gens un petit peu teubés, je vais juger, hein, l'enfer, c'est les autres, vous connaissez le problème dans les jeux en multi, bah, tu perds et c'est pas de ta faute. Et c'est hyper frustrant pour le coup. Et pendant la bêta, tout le monde a dit, bah, ces jeux d'équipe, ça c'est nul et tout, mais ils les ont quasiment tous gardés. Alors, ils ont essayé d'en retravailler certains, mais pour moi, c'est un vrai problème parce qu'en plus, tu peux vraiment faire de l'anti-jeu aussi sur certains de ces mini-jeux. Il y a des mini-jeux où tu pousses des balles, t'as trois équipes, les jaunes, les bleus, les rouges, tout le monde pousse sa balle, t'arrives en bas, il faut la mettre dans le panier en premier. Et il y a des mecs qui vont courir dans les équipes, dans chacune des équipes, il y a des mecs qui vont pas pousser la balle, mais qui vont courir en fait jusqu'à l'arrivée pour bloquer les balles des autres. Et ça fait partie du jeu, hein, c'est prévu comme ça. Sauf que en fonction du nombre de neurones des mecs de ton équipe, bah tout le monde va pas y penser, tu vois. Et du coup, tu te retrouves dans des situations qui sont pas gagnable, quoi. Dans le football, t'as le même problème. C'est un peu, le football, c'est un bien gros mot pour un jeu de gros, avec des gros ballons à mettre dans des buts. Mais bon, bref, c'est effectivement, ça ressemble au foot. Donc bon, je suis assez mitigé sur la rejouabilité à terme et sur vraiment ces jeux d'équipe. L'autre problème, c'est qu'il est donc vendu. Il est pas free to play sur PC. Alors ça permet de faire le ménage parce que les gens qui, déjà, parce que oui, je suis obligé de vous le dire, il y a déjà des tricheurs sur ce jeu. Donc faut quand même avoir, mais pas de vie pour tricher sur ce genre de jeu. Faut vraiment être un fils de rien. Enfin, j'ai pas les mots, tu vois. Mais il y en a qui le font quand même avec des genres des speed hacks pour aller plus vite dans les courses, etc. Bon, bref, tant pis pour eux, hein. Et donc le fait qu'ils soient pas free to play, ça, évidemment, quand tu bannes ces mecs-là, ils peuvent pas revenir aussi facilement. Ça leur coûte un peu de thunes de racheter le jeu, etc., etc. Mais c'est toutes les mécaniques derrière sont des mécaniques de free to play. Donc t'as une monnaie in game pour acheter des costumes, t'as des packs de DLC qui sont juste des packs de costumes ou d'animations, etc., que tu vas acheter en plus du prix du jeu. Donc vraiment tout le truc est prévu en free to play et je trouve un petit peu dommage que le jeu soit payant du coup à cause de ça, alors que en PlayStation Plus, forcément, comme tu payes ton abonnement à l'année, ils ont un deal avec Sony, là le truc est gratuit, et là ça fait plus sens si tu veux. Donc voilà, alors est-ce que je vous dis de ne pas l'acheter? Non, franchement, si vous avez une bonne bande de potes qui veut faire des games avec vous, allez-y. Comme il est dispo sur Steam, vous pouvez faire comme plein de copains à moi ont fait, prendre le jeu, essayer une soirée, et puis après, vous le faites rembourser ou pas, en fonction de votre feeling. C'est une possibilité, ça marche pas mal. Moi, je sais que j'ai pas énormément d'heures de jeu dessus, moins d'une dizaine, et très honnêtement, je doute de m'y remettre de sitôt, sauf quand il y a une sorte d'embuscade de potes qui font genre « Waouh, on a envie de faire du Fall Guys !» Bon, là, t'y vas, mais tout seul, de moi-même, lancer le jeu, non. Voilà.
Bah, disons qu'il y a bien des gens qui ont acheté le, comment ça s'appelait là, le dick jousting, le truc de duel de beats.
Alors, ouais, bon, oui.
Ça, bah,
oui.
Ces gens-là, ça va leur plaire. Ça,
écoute, voilà, il y a la variété sur Steam est sans fin. Hein. On oublie de le dire de temps en temps.
Allez, on parlait tout à l'heure d'Apex, il y a un nouveau patch qui vient de sortir.
Le gros patch de la saison 6, donc il y a un nouveau Battle Pass qui est dispo, il y a un nouveau personnage, il y a plein de nouveaux trucs qu'ils ont rajoutés, dont une idée qui va être, je le dis ici en exclusivité, hein, comme certains youtubeurs, ça va être pompé instantanément chez plein d'autres Battle Royale, parce que je ne sais même pas comment les autres n'y ont pas pensé avant finalement. Donc il y a un nouveau spray, mais ils appellent ça le holo spray, donc au lieu de se faire chier à avoir un mur pour pouvoir taguer le mur, comme dans tous les Counter-Strike, Valorant et tout de la Terre, et ben là, maintenant, tu peux faire un truc très stupide. Tu mets quelque chose par terre, en fait, tu jettes une plateforme qui va faire un hologramme avec ton spray, en fait, au milieu de la map. Et c'est juste super malin, ça marche très bien, c'est assez rigolo. Et donc, ça fait partie des nouveautés de cette saison. Ensuite, évidemment, le truc le plus important, c'est le nouveau personnage qui s'appelle Rampart. C'est une indienne, enfin, un accent indien à couper au couteau, elle est à mourir de rire. Je sais pas qui a fait la voix, mais super job, la voix anglaise, elle est vraiment parfaite. Et elle a un kit qui est vraiment pas mal. Donc en fait, déjà, elle reload, elle recharge plus vite ses armes que tout le monde. Elle a des chargeurs pour les LMG, donc les light machine guns, qui sont plus grands que ceux que tu as normalement avec un perso normal. Et elle a un mur de défense qui est assez rigolo, puisqu'en fait, ce mur de défense, en bas, il est en métal, et au-dessus, c'est un champ de force. Ce champ de force, quand tu es d'un côté, il accélère et il booste les dégâts de tes balles. Et quand t'es de l'autre côté, évidemment, il les arrête. Alors évidemment, il se détruit, hein, il reste pas là ad vitam, donc c'est assez rigolo. Et donc le combo, c'est d'avoir ce truc-là avec son ulti. Et son ulti, c'est une tourelle minigun sur laquelle elle s'assoit, en fait, et qui est donc statique, hein, et qui, tu peux le mettre derrière ce mur-là, et la tourelle, elle a un petit nom, elle s'appelle Sheila.
Oui, ok.
Ouais, parce qu'il y a tout un, il y a tout une, évidemment, dans, tout est scripté, il y a plein de vidéos, etc., tout est scénarisé dans Apex, et c'est plutôt bien vu de ce côté-là. Et donc, cette tourelle, derrière son mur qui booste les boulettes, là, tu découpes les mecs en face, ils sont à découvert, mais à une vitesse, c'est assez violent, d'autant plus que le gros changement de ce patch, c'est le changement de gestion des armures, avec un time to kill vachement plus faible qu'avant, c'est-à-dire que bah, maintenant, il faut moins de balles pour tuer quelqu'un, en fait, tout bêtement. Pourquoi ? Parce que les armures ont été nerfées, et tu démarres avec une armure, ce qui n'était pas le cas avant, et qui va se recharger, qui va augmenter en puissance à partir des dégâts que tu fais avec quelqu'un. Donc si tu tires sur quelqu'un, en fait, il y avait un truc qui existait déjà, qui s'appelait les armures évolutives, mais que tu prenais que quand tu savais vraiment jouer, en fait. C'est-à-dire que moi, je les touchais pas. Et là, toutes les armures sont évolutives, même quand tu prends une armure violette ou une armure bleue, qui sont les armures un peu plus costauds. Mais ces armures-là sont en fait des armures évolutives préchargées, mais qui ont moins de barres qu'avant. Donc, qui encaissent moins de dégâts qu'avant, quoi qu'il arrive. La seule qui n'est pas évolutive, c'est l'armure jaune qui reste disponible. Et du coup, bah, ça fait des petits changements parce qu'on s'est bien fait surprendre avec la team Geekzone quand on a testé le nouveau patch. C'est-à-dire que bah, tu charges des mecs, t'as l'habitude de rentrer un petit peu bourrin dans certains bâtiments et bah, là, tu vas te faire découper assez vite en fait si tu ne sais pas viser très 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 bien, très 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 vite. Donc voilà, faites attention, c'est un changement qui fait vraiment évoluer le gameplay. Je pense que c'est une bonne chose au final. Moi, j'étais un peu surpris au départ, mais parce que franchement, l'aspect ultra bourrin d'Apex me saoulait au bout d'un moment. Mais là, ça vraiment, ça récompense les gens qui savent vraiment viser et le titre devient un petit peu plus posé dans certaines phases de jeu, surtout en ranked. Donc, à voir ce que ça donne sur la longueur, mais pour l'instant, c'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que le patch était pas mal pété de bugs à la release. Ils avaient un bug rigolo quand tu mettais deux murs là, de remparts justement là, dont je viens de parler, bah en fait tu en mettais deux côte à côte et tu tirais à travers, t'étais déconnecté du serveur automatiquement.
Ok, sympa.
Ça c'était pas mal comme bug, parce que je pense qu'ils n'avaient pas prévu la double charge des balles en fait, tu vois. Donc le serveur n'aimait pas trop l'idée, donc ça ils l'ont patché évidemment dans la journée. Et moi j'ai eu des problèmes de déconnexion, des trucs un peu chelous, donc la première semaine des patchs Apex, de temps en temps, c'est un petit peu délicat. Faites attention, ne vous énervez pas, et puis n'hésitez pas à venir jouer avec nous. On n'est pas très bon, mais on s'amuse beaucoup.
Allez, on reste dans le free-to-play avec Warframe.
Qui nous a annoncé Heart of Daimios, qui sort le 25 août, et nous sommes quelle date ?
Déjà le 20 août, c'est-à-dire 20 jours de plus que la date à laquelle je devais finir mon bouquin.
Tout va bien. Donc, parce que j'avais, cette news, c'est la première que j'avais notée dans la conduite au moment de l'annonce, au début du mois. Donc, on arrive à la faire avant que le truc soit dispo. Bel effort. Bon, c'est un gros patch de Warframe, comme d'habitude, avec une nouvelle zone en open area qui est assez intéressante au niveau graphique. Ils ont encore modifié le moteur. C'est super joli. Et moi, ce qui m'a vraiment fait délirer, c'est qu'en fait, la présentation en elle-même, il y avait un truc que j'avais jamais vu dans le monde du jeu vidéo. C'est-à-dire que tu avais des bouts de la présentation qui étaient faites in-game. Donc, si tu étais connecté pendant la présentation qui avait lieu sur Twitch, par exemple, quand tu étais connecté in-game dans certains lieux, en fait, tu étais téléporté dans certaines zones, dans des petites pièces qui te montraient en fait les nouveaux monstres. D'accord. En temps réel. Et donc, bah, c'était super intéressant. Les mecs te disaient, attends, si vous êtes connecté là, bim, boum, regardez, vous allez avoir tel nouveau monstre, tel nouveau truc. Et tu pouvais aller voir le modèle 3D. Tu pouvais pas interagir, faire quoi que ce soit avec, mais tu étais téléporté dans le jeu, dans une zone où tu pouvais voir la gueule que ça allait avoir. Je trouvais ça plutôt cool. Et dans les nouveautés en termes de gameplay, il y a un truc qui s'appelle les Necramecs ou Necromecs qui va être dispo. Donc, c'est des gros mechas dans lesquels tu vas pouvoir rentrer. C'est Warframe, ils sont pas feignants pour rajouter des pans entiers de gameplay sur un truc qui est déjà... Il y en a dans tous les sens. Hein. Il y a un milliard de gameplay différents dans le jeu. Et ça ne s'arrange pas. Donc là, c'est les gros mechas qui sont surtout là pour aller découper justement les gros méchants dans la zone de Deimos. Tout ça est dispo dans la news qui est linkée dans le papier qui accompagne ce podcast. Je vous conseille d'aller voir tout ça.
Et puis on va parler de Rainbow Six Siege où il y a un guest star inattendu.
Bah écoute, ils recyclent hein, les petits mecs de chez Ubisoft. Donc il y a un nouveau volet du Season Pass qui va sortir qui s'appelle Operation Shadow Legacy avec un nouvel agent qui est le petit nouveau Sam Zero Fisher. Okay. Alors Sam Fisher, ils lui ont mis un petit nickname qui est Zero et qui est inattendu dans le sens où tu vois tous les autres héros de Rainbow Six c'est des no-name en fait. Hein. Mm-hmm. Là c'est vraiment le premier qui est connu chez Ubi dans d'autres jeux. Alors ils l'ont soigné, il a plein de petits gadgets rigolos, surtout une caméra qui permet de même se mettre à travers les renforts blindés que tu peux mettre sur les murs pour éviter que les gens explosent tes murs et passent à travers trop facilement. Et cette caméra peut regarder dans les deux sens, donc je pense que pour aller espionner les gens, ça va être rigolo. Et elle a un petit laser qui a l'air de faire pas mal de dégâts et qui est aussi utile pour péter certaines défenses quand les mecs ont vraiment joué fort à l'amo et tout, blindé, c'est un peu relou. Donc voilà, je vous ai linké un papier de Nofrag qui explique tout ça avec une vidéo complète de 8 minutes, un truc comme ça, de chez Ubisoft, qui vous montre les modifications de cartes, le nouveau système de ban de cartes aussi, dans certains modes de jeu, etc., etc. Ils ont rajouté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ils ont rajouté un système de ping, qui n'est pas du tout inspiré de Apex, d'ailleurs, qui permet enfin de pinguer correctement les trucs ennemis, etc., sans se prendre la tête. Donc, non, c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, si vous étiez habitué à avoir deux nouveaux agents à chaque fois sur le Battle Pass, bah là, évidemment, il n'y en a qu'un. Ils ont dit qu'ils allaient calmer le jeu, parce que ça faisait quand même beaucoup à rajouter à chaque fois. Il y en a déjà beaucoup, 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 beaucoup dans le jeu, donc c'est pas très grave. Sam Fisher sera dispo directement pour ceux qui ont le Battle Pass automatiquement, comme d'habitude, 7 jours avant la mise en vente classique. Ça, c'est le système classique de Rainbow Six. Hein. Vous pourrez l'acheter, évidemment, 7 jours après avec les monnaies habituelles.
Et puis, on retourne dans une série de mini-bornes d'arcade. Enfin, non, là, c'est quoi? C'est du tabletop? Je ne comprends rien.
Ah oui, on avait déjà eu une borne, une mini Neo Geo. Il y en a même eu plusieurs. Et donc là, on a une Neo Geo MVSX qui sort. Alors, c'est effectivement une mini-borne tabletop qui est fait par une boîte qui s'appelle le G-Stone Group, en partenariat avec SNK. C'est un truc qui est attendu entre octobre et novembre 2020, mais contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir avec des consoles mini qui coûtent genre 100 balles, là, on est sur un tarif entre 450 et 500 euros.
Ah bah, comme ça rappelle la Neo Geo, pour le coup.
Ah bah là on revient dans la nostalgie de la Neo Geo. Ah bah oui, je me rappelle, c'était hors de prix. D'ailleurs, je dis n'importe quoi, c'est 450 à 500 dollars, mais bon, avec les taxes et tout, chez nous, ça va pas être loin de ça en euros, hein, vous affolez pas. Si elle est distribuée, on verra bien. La différence de prix entre les deux versions, en fait, c'est, si vous voulez ou pas, une base pour la bande d'arcade, hein, qui va se mettre en dessous avec un faux monnayeur, etc., que tu pourras acheter séparément, si jamais t'as été un petit peu petit bras au départ. Mais si vous faites ça, attention, parce que là c'est 100 balles en plus, donc calculez bien votre coût au démarrage, sinon vous allez perdre 50 balles bêtement. La bestiole n'est pas une mini console en tant que telle, puisqu'on est quand même sur un écran LCD 17 pouces en 1280x1024 au format 4/3, et on est sur un bébé qui va quand même peser 12,7 kilos.
Ah oui,
avec le truc. Donc on est quand même sur une reproduction. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans la mini console, on est dans la reproduction de mini borne d'arcade, mais elle est vraiment, tu vois. Donc c'est les les mecs, ça doit être des graves passionnés, donc c'est assez rigolo. Pour l'instant, on n'a pas encore toutes les infos, mais avec la FAQ, on sait que normalement, le meuble et tout ça seront livrés avec une alimentation, c'est le moindre des choses à ce prix-là. Et il y aura aussi un manuel pour savoir comment exploiter la bestiole, et deux figurines, une de Terry Bogard et l'autre de Yori Yagami, qui sont personnage emblématique de KOF hein, et de Fatal Fury, et normalement il y aura 50 jeux qui seront en mode MVS ou AES. Alors c'est les modes console de jeu ou bande d'arcade, donc t'as un mode où il fallait mettre des petites pièces et l'autre mode tu t'en fous, c'est la version console quoi. Donc voilà, on verra la gueule que ça, on en reparlera certainement à la sortie parce que le truc elle est rigolo et je pense que il y a des yanklis comme on dit chez nous sur Geekzone qui vont peut-être craquer et qui nous feront un petit report sur le forum, mais en tout cas je trouve l'idée rigolote parce que là on passe une étape hein. On sort du petit jouet en plastoc et les mecs arrivent avec genre boum, mais bon avec un tarif qui va avec, donc je pense qu'il y aura quand même moins de personnes intéressées.
Allez, on reste dans le gaming et des nouvelles du côté de la Xbox Series X.
Bon, alors, une seule vraiment intéressante, c'est juste que la date de sortie est confirmée pour novembre. En revanche, Halo Infinite, bah, il dégage du planning et lui, il sortira en 2021. On ne sait pas exactement quand. Bah oui, parce que Halo Infinite, alors, je sais pas si t'avais suivi, mais il était présenté, et c'est devenu un mème intersidéral sur directement.
Moche.
Parce que c'était très très laid et du coup, il y a plein de vannes. D'ailleurs, merci Cyril de m'avoir abreuvé de tous les mèmes qui sortaient parce que ça le faisait crever de rire et j'avoue qu'il y en avait qui étaient assez drôles. Bon, le jeu était laid, c'était vraiment pas à la hauteur de ce qu'on attend d'une console nouvelle génération. La patte graphique utilisée, vraiment le choix artistique qui a été fait autour de jeu. Je pense que c'est une connerie, hein, on va le dire. Donc là, je sais pas du tout s'ils vont garder ce choix et puis juste améliorer certaines choses ou s'ils donnent le temps de refaire plein de modèles, etc. Mais je pense qu'ils auront pas le temps de faire un rework aussi impressionnant. Donc on verra bien le résultat, mais en tout cas, pour les fans d'Halo, il va falloir être patient puisque c'est pas pour tout de suite.
Hein. Une petite pensée pour Fox. Et puis Elite Dangerous Odyssey, c'était le truc qui avait été leaké et puis qu'ils avaient dû annoncer très très vite, c'est ça?
Ouais, c'est la nouvelle phase de Elite Dangerous qui est le Saint Graal pour certains et le mais what the fuck pour moi. Donc là, il y a une vidéo que je vous ai linkée dans le billet qui accompagne le podcast, donc qui s'appelle The Road to Odyssey Part 1, One Giant Leap, qui est en fait l'annonce du fait qu'on va enfin pouvoir sortir de ces vaisseaux et poser des petits petons sur les planètes que l'on visite dans Elite Dangerous. Oui, comme dans Star Citizen. J'en veux beaucoup d'ailleurs à Star Citizen pour plein de raisons, mais aussi pour ça, parce que en fait, moi j'en ai rien à foutre, je veux piloter des vaisseaux spatiaux dans Elite. Sortir du vaisseau pour aller grinder des trucs, j'en ai rien à foutre. Pour l'instant, la seule option de gameplay qui a été présentée, c'est de sortir et d'aller analyser des plantes que tu pourras trouver dans certaines planètes, récupérer des informations sur l'ADN que tu pourras revendre ensuite, etc., etc. Autant vous dire que je vais rester bien calé dans mon baquet pilote, hein, parce que là, pour l'instant, ce qu'ils ont montré, c'est pas extraordinaire. On peut toujours pas, a priori, se balader dans les vaisseaux eux-mêmes, ce qui aurait été à la limite plus rigolo, mais ce qui est techniquement hyper compliqué à faire, vous avez qu'à demander Star Citizen, justement, où de temps en temps, on se balade dans le vaisseau et hop, on sort, parce que les deux objets sont désolidarisés, tu vois. Donc, ça pose des soucis en termes de code. Bon, franchement, je suis très mitigé sur l'idée. En revanche, ils ont vachement rebossé le moteur graphique. C'est encore plus beau. Les planètes, c'est encore plus joli. Les planètes, évidemment, il n'y a toujours pas de base de ville, de trucs comme ça dessus. Et ça va encore faire râler certains. Et les fans de Star Citizen avec leurs trois planètes et demie vont être là, genre, oui, mais nous, on l'a. Ouais. Mais vous n'avez pas beaucoup de trucs à côté. Mais bon, bref, c'est un autre débat. Là, on a énormément de planètes avec des variations autour des roches disponibles, planètes de glace, des caillasses, les reliefs sont beaucoup plus variés, travaillés, etc. Donc, ils sont en train de se faire plaisir et vous avez donc dans cette vidéo pas mal d'informations. J'attends la part 2 pour avoir plus d'infos là-dessus. Mais en tout cas, Elite Dangerous continue sa roadmap parce que c'était annoncé. Hein, c'est juste que bon, il y a plein de trucs qui ont été annoncés, qui ont été un petit peu décalés. Mais pas tant que son concurrent adoré de l'espace. Et puis, ils ne travaillent pas avec les mêmes budgets non plus. Donc, bon, ça joue aussi. Mais bon, si vous vouliez sortir d'un vaisseau de Elite, bah voilà, vous allez pouvoir le faire. Et je pense qu'en tout cas, au niveau technologique, ambiance sonore, etc., ça risque d'être assez extraordinaire. Parce qu'ils ont des équipes vraiment fabuleuses sur ces domaines.
Et puis on va terminer avec la grosse polémique de cette semaine, Epic qui s'attaque à Apple, Google et pour le moment bah à peu près tout le monde en fait.
Bah en fait ils se sont fait plein de potes Epic, c'est assez rigolo. Donc résumé des épisodes précédents, si jamais vous étiez endormi sous un caillou ou sur la plage parce que vous avez de la chance et que vous aviez déconnecté, Epic a sorti une update de Fortnite sur iOS et Android qui en fait permettait d'acheter les V-Bucks, qui est la monnaie interne du jeu, en passant directement par leur store à eux, sans donner évidemment les 30% obligatoires ni à Google ni à Apple. Sauf que bah, évidemment c'est contraire aux règles d'utilisation, aux CGU, qui sont les mêmes chez Google et Apple de ce côté-là. Et donc Fortnite s'est fait bannir des deux stores, et c'était complètement prévu par les petits gars de chez Epic, qui ont répliqué du tac au tac avec vidéo, procès, etc., en disant « Regardez les méchants, ils veulent pas nous laisser gagner de l'argent.
Ah, » c'est bagarre de milliardaires. Hein.
C'est extraordinaire. Donc je rappelle que Epic, c'est pas du tout une petite boîte et c'est pas des gentils, hein, parce que alors les gens qui défendent Epic, faut quand même rappeler deux secondes qu'ils ont mis des boîtes sur la paille, ils ont fait faire faillite à pas mal de gens en leur refusant ou en leur faisant des procès autour justement d'utilisation du Unreal Engine. Donc bon, comme White Knight, on a vu mieux. Tim Sweeney, il a 2-3 casseroles, qui est le patron de chez Epic, a 2-3 casseroles derrière lui à différents niveaux. Et puis pour finir, bah, Epic, c'est à 40% Tencent. Tencent, c'est une boîte chinoise. Je vous rappelle que les Chinois et les Américains, en ce moment, c'est l'amour fou. Enfin, les Chinois et le monde même, j'ai envie de dire. Mmh. Donc, c'est un, il y a une problématique politique derrière énorme et ça dépasse largement le cadre de, il faut qu'Apple arrête de prendre 30% à tous ces pauvres développeurs. La problématique, elle va être assez compliquée à régler puisque tout le monde prend 30%, genre Steam fait la même chose, les seuls qui le font pas justement, c'est Epic avec l'Epic Game Store qui est à 12%, mais la seule motivation d'Epic dans l'histoire, ne vous leurrez pas, c'est uniquement de récupérer une position de force pour pouvoir imposer son store, que ce soit sur iOS ou Android, etc., et puis à terme, prendre les pourcentages qu'ils pourront prendre en fonction de la position de force qu'ils auront, parce que je vous rappelle que le grid, l'avarice, est là chez tout le monde. Epic, c'est pas les derniers, hein. Donc c'est une problématique qui, moi, en fait, c'est un move de la part d'Epic qui me fait gerber, parce que ils essayent clairement de monter leur base d'utilisateurs contre Apple, voire contre Google, mais surtout Apple, parce que Apple, tu vois, c'est la target facile, c'est la, c'est les gens, oh là là, c'est les riches, machin, etc.
Donc bah, c'est surtout que ça fait du buzz aussi, en fait. Hein.
Bien sûr.
On en parle, quoi.
Parce qu'en fait, comme ils sont fait virer, tu regarderas toutes les news sur le sujet, les trois quarts titres uniquement sur Apple, alors qu'avec Google, on en est au même monde, au même point, tu vois. Google a viré l'appli aussi, etc. Donc, c'est un peu le même bordel. En revanche, là où Apple est passé à la, passé la seconde en mode assez vénère, c'est qu'effectivement, on n'est pas loin du bullying, parce qu'ils sont en train de dire, ok, très bien, si vous changez pas votre fusil d'épaule, les mecs, eh ben, nous, on va vous bannir de tous les outils d'exploitation, enfin, on va vous empêcher d'utiliser tous les outils pour développer des softs sur iOS et macOS, et salut, bisous, quoi. Donc, il y a tout un bordel autour de ça, puisque je vous rappelle qu'en plus, les États-Unis ont lancé des enquêtes pour abus de position dominante chez Google et chez Apple, et d'autres au passage d'ailleurs, et que du coup l'ambiance est un petit peu tendue, mais en même temps, encore une fois, politiquement, c'est très très compliqué, parce que si t'as les Américains qui vont castrer finalement leur plus grosse société, alors que de l'autre côté tu te bastonnes contre la Chine, qui elle fait des ponts d'or et aide ses sociétés maison, tu vois, Huawei en premier. Bon, et puis Tencent et compagnie. Enfin, tu vois, le sujet, il est bien plus complexe qu'une histoire de 30%, les pauvres développeurs, etc., etc. Derrière, on peut aussi se poser la question du bon, bah très bien, mais est-ce qu'il y a pas non plus trop d'apps, trop de jeux, trop de tout ? Et est-ce que finalement, si t'es pas capable de survivre avec cette ponction de 30%, est-ce que t'as bien fait de te lancer dans le développement de ton truc, tu vois ? J'en sais rien, j'ai pas de réponse à tout ça, c'est un énorme bordel. Moi je pense qu'on est vraiment saturé en fait en termes de médias divers et variés actuellement, pour essayer de suivre l'actu tous les jours, quand tu vois le nombre de trucs qui sortent, les patchs, les jeux, le nombre de nouveautés qui arrivent, les évolutions dans chaque jeu, etc., je me dis que ça va être quand même assez compliqué à terme et que bah, y a pas de la place pour tout le monde en fait et que la problématique elle est pas autour des 30% d'Apple. Maintenant, effectivement, cette mainmise sur leur propre plateforme, est-ce qu'elle est justifiée? Comment est-ce qu'il faut la réguler? Bah, bon courage, mais ça va pas se faire avec un procès en tout cas, parce que si il doit se passer quelque chose, il faut que ça se passe au niveau des États et en l'occurrence, il faudra que ça se passe au niveau des États-Unis et il faudra que ça soit juste et pour tout le monde la même chose. Donc ça voudra dire, bah ok, très bien, mais il faut que la règle s'applique non seulement à Apple, mais aussi à Google, mais aussi à Sony, mais aussi à Nintendo, mais aussi à Microsoft sur tout ce qui est Xbox, etc. Car tous ces gens-là fonctionnent de la même manière sur leur store propriétaire. Donc, on est vraiment voilà, sur une baston un petit peu compliquée, et il n'est pas dit que ça backfire pas complètement pour Epic, que finalement rien ne change et que les mecs se fassent blackbouler, on ne sait pas. Ça va être le débat est ouvert, comme on a eu déjà pas mal d'échanges sur le forum de Geekzone à ce sujet-là. Je vous l'ai linké d'ailleurs dans le billet qui accompagne le podcast. Venez donner votre avis si vous avez, mais lisez le reste hein, parce que sinon la conversation tourne en rond et c'est vite chiant. mais voilà, on n'a pas, il y a pas de réponse. Évidente, il n'y a pas de méchant dans cette histoire, il n'y a pas de gentil. C'est vraiment une baston de milliardaires avec Epic qui, en fait, essaye de faire monter au front des gens qui dépensent leur thune chez Epic, en plus, tu vois. Donc, je trouve ça très, très moyen comme move. Il y a une excellente vidéo de Jim Sterling, d'ailleurs, là-dessus, qui est linkée dans le thread dont je viens de vous parler, qui est assez violente dans le sens où il dit, mais voilà, n'allez pas vous battre ou défendre Epic dans l'histoire. C'est pas votre guerre, les gars, tu vois. Donc, c'est le gros bordel du moment. Ça va être un feuilleton, mais alors pendant très longtemps, parce que ce genre de procès, évidemment, ça se règle pas en 3 jours. Et puis, pour le moment, on sait pas du tout comment ça va être géré par la justice américaine. Donc, ça risque d'être vraiment, vraiment longuet.
Et puis, avec Trump au sommet de l'État et avec sa main dans toutes les affaires du moment, je sais pas trop ce que ça peut donner non plus, surtout vu ses relations avec la Chine.
Ça va être un bordel.
Le virus chinois, comme il dit. Bref, on passe du côté des apps avec RedditOS.
Oui, alors c'est plutôt un projet qu'une app, mais c'était pour vous dire que j'avais fait une petite news sur une appli Mac qui est en développement, qui est en fait un client Reddit qui va être dispo uniquement sur macOS Big Sur, comment dire en français. Ça va être sympa à prononcer celui-là, je vous le dis. Le prochain macOS, hein, qui est en version bêta actuellement. Et en fait, je trouvais l'idée assez intéressante parce qu'il y a des clients Reddit très sympas sur iOS et Android, mais en desktop, il n'y a pas grand chose. Alors, on en a linké un sous Windows 10 que j'ai pas eu le temps de tester encore. Mais voilà, le site web de Reddit, j'aime bien Reddit me balader dessus. Mais alors, le site web, vraiment, c'est un cancer, même avec les extensions qui vont bien pour certains navigateurs. Donc, allez voir ce projet. Si vous cherchez un truc à développer sur Mac pour vous faire les dents sur du code, ça n'a pas l'air d'être le plus compliqué de la Terre pour aller bidouiller. C'est fait en Swift avec Swift UI. Le look de la chose a l'air assez prometteur. Moi, j'attends de voir ce que ça va donner, mais je n'ai pas osé encore installer la version bêta sur mon Mac, car j'ai du travail à faire dessus, et je n'ai pas envie que ça plante toutes les 3 secondes. Donc voilà, allez regarder ça, et puis si jamais vous vous embêtez, faites des versions pour vos OS adorés. Je pense qu'il y a une demande, les API de Reddit ont l'air assez dispo et solides, puisqu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils côté mobile qui existent, donc je pense qu'on doit pouvoir faire des choses sympas sur desktop si on a envie de s'amuser.
Ouais, puis après avoir été très discret pendant ces 30 premières minutes de podcast, je vais quand même vous parler d'un truc aussi.
Ah, mais t'étais là!
Oui.
Il était là! Oh, bonjour Pascal, comment ça va?
Bah, j'ai pas trop le temps de faire quoi que ce soit en ce moment, donc entre les nuits difficiles et le boulot, donc je suis un peu désolé, j'ai pas énormément de news à vous proposer, mais j'ai quand même eu le temps de regarder le pilote de Lovecraft Country. Alors, est-ce que tu as regardé ou pas?
Déjà, pas encore, j'ai vu la bande-annonce et j'ai un backlog tellement dégueulasse que je suis même en série que je n'ai pas du tout regardé, j'avoue.
Alors, c'est sur HBO et il y a pour le moment, donc, comme je le disais, un seul épisode disponible, donc on va éviter de tirer des plans sur la comète et de vous dire « Oh là là, c'est génial, il faut absolument regarder, parce que ça se trouve, ça va très mal tourner ». Mais en tout cas, pour le moment, c'est assez prometteur. Alors, c'est adapté à la base d'un roman, roman du même nom qui est sorti en 2016, qui est un roman de Matt Ruff. Et c'est un roman, en fait, comme la série d'ailleurs, hein, qui parle en fait de l'Amérique des 50s, des années 50, celle de la ségrégation raciale. Et donc, bah, tout ça, en fait, dans un contexte un peu surnaturel. Alors, c'est très difficile à décrire, c'est une série qui n'a pas dû être facile à pitcher, parce que ça mélange à la fois du drame de société et des éléments surnaturels. Lovecraft Country, en fait, c'est la dénomination qu'on donne à cette région des États-Unis où se déroulaient la plupart des aventures des protagonistes des romans et des nouvelles de H.P. Lovecraft. Lovecraft qui n'était pas le dernier des racistes et des xénophobes, donc c'est plutôt raccord avec le sujet. Et on retrouve, en fait, au début de cet épisode, Le personnage principal, donc, qui s'appelle Atticus Freeman et qui embarque donc avec une pote à lui qui s'appelle Laetitia et son oncle George. Ils embarquent dans un road trip à travers les États-Unis à la recherche donc de son père qui a disparu. Et forcément, comme on est en pleine ségrégation, ça se passe pas très bien. La circulation est pas très facile, on va dire. Et sans vous spoiler la scène, il y a une scène, je crois que c'est vers le milieu de l'épisode, où ils rencontrent des flics juste avant le coucher du soleil. Et apparemment, il y a des lois comme quoi après le coucher du soleil, si t'es black, les flics peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc il y a une espèce de pression par rapport à ça. Il y a une petite course-poursuite en bagnole pour sortir du comté avant que ce soit 18h. C'est vraiment très tendu, très malsain. Et en fait, finalement, les éléments surnaturels, ils sont pas très présents jusque dans la toute fin de l'épisode. Je vous en dis pas plus non plus. C'est assez étrange comme mélange. Alors j'ai un peu peur parce que derrière à la prod, on retrouve des gens qui m'ont pas vraiment convaincu ces derniers temps. Il y a Monkey Paw Productions, donc qui est la boîte de production de Jordan Peele. Alors Jordan Peele, j'avais adoré Get Out sauf la fin, mais tout ce qu'il a fait après, notamment la Twilight Zone rebootée de 2019, j'étais pas archi convaincu, on va dire. Et puis il y a notre ami JJ Abrams, toujours dans les bons coups, qui produit aussi via Bad Robot. Voilà. C'est pour ça que je reste quand même très méfiant, mais disons que pour le moment c'est plutôt pas mal. Donc c'est Misha Green qui est showrunner. Elle avait fait une autre série qui s'appelait Underground avant, qui apparemment était très très bien, que je n'ai pas vu, qui traitait aussi de problèmes raciaux. Donc voilà, le premier épisode m'a pas mal surpris parce qu'en fait tu sais jamais où ça va, tu t'attends à voir des monstres tout de suite parce que c'est Lovecraft, et puis finalement c'est assez mis au second plan pendant très longtemps, donc c'est vraiment assez chouette. Voir ce que ça va donner sur la longueur, il y a 10 épisodes qui sont prévus, c'est sur HBO, donc a priori disponible sur OCS en France. Et c'est la fin de ce 142e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine ou pas? Je ne sais pas.
Allez. On va faire. Et puis, si jamais on n'est pas là, vous savez quoi? On vous préviendra grâce aux réseaux sociaux extraordinaires. Ouais. C'est hyper pratique. Normalement, on sera là. Pour nous, c'est un peu la rentrée, là. Si jamais on n'est pas là, ça sera plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a des clients qui ont décidé qu'ils venaient de rentrer de vacances et que tout était urgent. Rapport à tous les trucs qui ont été mis en attente pendant le mois d'août. J'adore. Ouais. Tous les ans, c'est la même blague quand t'es freelance. Donc on verra comment ça se passe. Mais normalement, nous serons là la semaine prochaine.
Voilà, donc rendez-vous vendredi prochain, 8h, pour une nouvelle sélection de l'actu et un nouveau Torréfaction. Bon week-end, salut CAF.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés
et on s'intéresse à ceux qui la font.
Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.